Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Parler de Dieu est un exercice redoutable. Pourtant, tous nous attendons une parole sur le sens de la vie, sur Dieu, qui soit réaliste, profonde, qui nous touche, voire nous bouleverse. Cette parole pour les chrétiens pratiquants, nous l'entendons lors du commentaire de l'évangile du dimanche, mais elle nous laisse parfois sur notre faim. Il faut dire qu'aussi surprenant que cela puisse paraître, parler de Dieu, c'est un peu comme arriver à parler de l'évidence, celle du don de Dieu, du don de la vie par exemple, dont nous vivons chaque jour, sans bien nous en rendre compte. Ainsi, parler de Dieu serait une sorte de dévoilement du quotidien, silence, sur lequel l'on mettrait des mots. Regard biblique sur le don, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec nous, pour nous développer ce thème, Marie-Philomène Diouf. Vous êtes religieuse de l'Immaculée Conception à Castres et professeure d'Écriture Sainte à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Merci de vous être rendue présente pour cette émission. Alors hélas, vous ne pouviez pas être présente dans nos studios, mais en ces temps, on va dire, de pandémie où tout le monde essaye de faire de son mieux, j'espère que nos auditeurs ne nous en tiendront pas à rigueur. Alors vous avez vu que je vous ai fait une introduction poétique parce que presque par temps, le thème de ce jour est à la fois, on va dire, important et presque évident. C'est une conférence que vous allez donner donc le 11 février prochain à Saint-Sulpice et à Rabastens. On redonnera toutes les informations à la fin de cette émission. Du don à l'accueil du don, un regard biblique. Avant toute chose, peut-être pour faire connaissance un peu avec vous, vous pouvez nous présenter les religieuses de l'Immaculée Conception de Castres. Qu'est-ce que c'est que cette congrégation religieuse?
Alors, c'est une congrégation fondamentalement missionnaire, dans le sens où nous sommes présentes un peu partout dans le monde, toujours avec l'objectif d'accompagner les personnes jusqu'à ce seuil d'une expérience de rencontre personnelle avec lui. Et notre charisme est fondamentalement centré sur les pauvres dans tous les sens, spirituels, matériels. Voilà. En tout cas, avec toute une dynamique de rencontre avec Jésus.
Alors, vous êtes donc aussi professeur d'écriture sainte à l'Institut catholique de Toulouse. Vous faites donc régulièrement le trajet jusqu'à la Ville Rose. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de cette conférence? J'en vois quand même passer pas mal des conférences, mais alors des conférences sur le don, on a l'impression que c'est parler presque un peu de l'évidence, hein, d'où mon introduction, du don à l'accueil du don. Pourquoi cette conférence?
Elle m'a été demandée. En fait, la paroisse qui a demandé est dans une dynamique, voilà, autour du thème du don. Par exemple, ils ont fait le don sur la littérature, le don en liturgie. Et bon, puisque je suis bibliste, bien sûr, on m'a demandé de traiter le thème à partir de la Bible. Et donc, voilà, le don dans la Bible, je me suis demandé vraiment si on pouvait parler du don sans pour autant s'ouvrir ou ouvrir le thème à l'accueil du don. D'où le titre « Du don à l'accueil du don ».
Alors vous commencez en rappelant une chose, on va dire évidente pour certains, mais bien plus difficile pour d'autres. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Ce n'est pas une phrase tirée de l'Écriture, mais vous vous rappelez que dans l'Épître aux Corinthiens, il y a cette phrase « As-tu quelque chose sans l'avoir reçu ?» Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Pourquoi est-ce que vous commencez par ce regard large?
Parce que tout simplement, quand on m'a demandé de traiter le thème, j'ai commencé à réfléchir. Et une chose évidente, c'est que par exemple, je n'ai pas demandé à naître. Voilà, mon être au monde est déjà de l'ordre du don. Ça m'est donné. Et puis, quand on ouvre les yeux, on se rend compte également que tout ce qui nous entoure, en fait, est un don. Même cet instant présent où nous parlons, ce dialogue que nous entretenons, est dans l'ordre du don, au fait. Ce qui m'a fait penser tout de suite que le don ne peut être qu'originel. Nous sommes là. Nous sommes là.
Alors, tout de suite.
C'est à partir d'une prise de conscience progressive de notre être là, voilà, que s'impose le « je suis, j'existe ». Mais « je suis », cette affirmation, est précédée déjà par notre existence inconsciente.
Ce que vous laissez...
Et donc, c'est dans ce seuil, non, il y a ce seuil à franchir, cette prise de conscience, à l'accueil du don, pour tout simplement penser à cet accueil comme étant ma manière de vivre dans ce monde.
Alors, sœur Marie-Philomène Diouf, ce que vous laissez entendre, c'est qu'en fait, ce mouvement auquel vous nous invitez, donc de nous rendre présents, on va dire, à ce don, et du coup d'accueillir ce don que nous sommes, en tout cas cette présence, quand vous dites « je suis », c'est aussi le mouvement des Écritures. Quand on lit, quand on ouvre la Bible, en ses premiers chapitres, c'est ce que l'on trouve dans le livre de la Genèse. Vous citez donc dans le livre de la Genèse: « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. » C'est aussi, la révélation des Écritures quant à ce don premier.
Exactement. C'est un mouvement, en fait, juste pour nous ouvrir à ce don. Et par exemple, pour aller de manière beaucoup plus profonde, en écho à ce livre de la Genèse, on peut lire le texte de Saint Jean, non, qui emprunte exactement la symbolique de la création, de la vie, de la lumière qui brille sur les ténèbres, etc., de la parole. Et il va parler de cette parole comme étant le Verbe qui est Jésus. Donc, Saint Jean va comme dire, le commencement, c'est quoi? C'est Jésus. Et nous sommes juste comme une conséquence de ce commencement. Je ne sais pas si c'est... texte de Saint Jean.
Non, on peut le citer. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu, il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et on pourrait continuer. On a l'impression que vous parlez de choses tellement évidentes. Pourquoi est-ce qu'il est important de les rappeler et de faire cette digression, on va dire, par le premier chapitre de la Genèse, sœur Marie-Philomène Diouf?
Ce qu'il y a, c'est que nous vivons, et ce qui donne la force de cohérence à une vie, c'est de s'arrêter parfois et de prendre conscience de ce qui se passe. De lire tout simplement un texte et de se demander, mais qu'est-ce qui est en train de se réaliser là par rapport à mon être au monde? Par exemple, ce texte, on l'entend, on le réentend. Mais quand je m'arrête, je me rends compte que Saint Jean veut juste dire une chose: le réel commencement, c'est Jésus. Il n'y a qu'en lui que nous pouvons nous comprendre et remonter à nos origines. Et ce n'est pas pour rien que, par exemple, un Israélite, pour définir son identité, remonte toujours à ce que le Seigneur a fait pour lui.
C'est-à-dire?
Et donc, quand nous lisons le texte des Écritures, ça nous ramène un peu à cette prise de conscience d'une origine qui ne dépend pas de nous-mêmes, pas de nos parents, mais de celui qui nous a donné d'être au monde.
C'est-à-dire, quand vous dites qu'un Israélite remonte toujours à ce que Dieu a fait pour lui, vous pouvez prendre un exemple?
Par exemple, quand on prend le credo du peuple d'Israël, ils vont commencer par dire « Mon père était un araméen errant ». Et ils racontent toute l'histoire, notamment celle de l'esclavage en Égypte. Comment ils ont pu crier dans l'épreuve, et ils se sont rendus compte que quelqu'un les a entendus et quelqu'un est venu à leur rencontre pour les libérer. Ça, c'est un événement fondamental que l'Israélite ne peut pas se passer. Il ne peut pas mettre entre parenthèses cet événement lorsqu'il veut parler de son existence, de son être au monde. C'est cette relation fondamentale qui le fait vivre et qui fait qu'il existe.
Alors, sœur Marie-Philomène Diouf, vous allez encore plus loin, c'est-à-dire que vous laissez entendre que quelque part, quand on ouvre les yeux, on va dire, sur sa vie, quand on l'éclaire comme ça par ces chapitres fondamentaux des Écritures, que ce soit le livre de la Genèse donc, ou le début de l'Évangile selon saint Jean, ce grand développement, on va dire, théologique et poétique qu'on vient de citer, on peut en venir à la conclusion qu'on ne serait rien, quelque part, ou pas grand-chose, et que de ce rien, justement, Dieu fait tout. Où Dieu fait un tout, je ne sais pas comment est-ce que vous le formuleriez. Vous prenez des exemples, vous parlez de l'histoire de nombre de personnages des Écritures, que ce soit Abraham, les femmes stériles qui parcourent les Écritures, ou alors le peuple juif, expliquez-nous.
Alors ce qu'il y a, c'est que moi je dirais que Dieu aime partir de rien. Déjà la création, c'est quoi? L'auteur va nous dire, la terre était informe et vide. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Lui-même, il se place dans ce rien, puisque de manière assez honnête, j'aime bien ce passage, il dit, je ne suis pas témoin de ce que je vais raconter. Alors, quand on traverse l'histoire biblique, vous avez parlé d'Abraham tout à l'heure, que je cite, oui, pourquoi? Parce que Abraham, inséré dans son contexte culturel, un homme qui ne peut pas avoir d'enfant, mais c'est rien. Ça veut dire qu'il va mourir sans laisser de descendance. Ça veut dire que son nom ne se perpétue pas. C'est rien. Non? Les femmes stériles, c'est exactement la même chose. Une femme qui n'a pas d'enfant, mais on ouvre la Bible, on ne parle des femmes que, excusez-moi, parce que il y a cette limite, non? Dans un contexte culturel bien défini. Mais tout ça, c'est pour justement dire au lecteur, là où il n'y a rien, c'est là où Dieu montre de manière imprévisible qui il est. Là où il y a les limites humaines, la main de Dieu agit. Qu'on se rappelle que les enfants qui vont naître de ces femmes stériles, c'est souvent des prophètes comme Samuel, c'est souvent des guides, des chefs du peuple, etc. Non? Et on peut aller au-delà de ces personnages et parler du peuple élu lui-même. Pourquoi Israël est choisi? Mais c'est parce que c'est le plus petit peuple. C'est parce qu'il est sans défense. C'est parce qu'il n'est rien, entre guillemets. Ce rien que les prophètes vont continuellement reprendre en parlant de ce reste que le Seigneur va utiliser pour aller jusqu'au fond, jusqu'au bout de son alliance. Parce qu'on se rappelle que lorsque Dieu prend l'initiative de venir à la rencontre de l'humanité, mais c'est parce qu'il veut aller jusqu'au bout. Dieu ne commence que parce qu'il veut et il peut aller jusqu'au bout. Donc ce qui... Oui.
Sœur Marie-Philomène Diouf, si on revient un peu à, on va dire, à l'introduction générale que vous faites à votre propos, à propos du don, c'est une conférence biblique, mais on entend derrière en fait que votre intention est d'essayer de toucher aussi un peu le grand public, tout à chacun. Et donc cette interrogation première que vous appeliez à avoir, qu'as-tu que tu n'aies reçu, fort de ce regard ou de cette promesse que vous décrivez, que Dieu s'intéresserait donc à ceux qui se reconnaissent quoi, petits, pauvres ou qui sont limités. Qu'est-ce que ça peut nous aider à nourrir comme espérance?
Par exemple, en hébreu, on parle des anaïm. Les anaïm, c'est ceux qui sont reconnus vraiment comme les pauvres. On parle généralement des veuves, des orphelins, par exemple, de l'étranger. Et ça veut dire que c'est jamais fini. Au contraire, c'est ce que Dieu utilise pour dire quelque chose de lui-même. On peut faire plein de discours sur Dieu, mais à un certain moment, il est bon aussi de s'arrêter et de laisser Dieu parler de lui-même. Qui nous parle de Dieu? Ce sont ces anaïm, non? Pourquoi? Parce qu'à travers leur vie, le Seigneur se révèle, se manifeste. À partir de ce rien humain ou de cet impossible humain, Dieu montre sa puissance. On se rappelle l'histoire de David, par exemple. C'est un berger de rien du tout. Grâce à ce berger, du reste, quand il se présente devant le roi Saül pour lui dire « Je peux aller à l'encontre du peuple philistin », tout le monde va sourire. Mais à partir d'un rien, le Seigneur fait éclater son œuvre. Et ça, je crois que c'est un signe d'espérance. Ça veut dire que, quel que soit là où nous en sommes de notre pauvreté, au contraire, c'est là où commence l'œuvre de Dieu.
Eh bien, voilà une belle promesse. On va faire une première pause musicale et puis on va continuer avec vous ce parcours biblique sur le don. On marche sur un fil, mais c'est un beau fil. Le don et l'accueil du don, c'est donc le thème de votre conférence. C'est le 11 février prochain à Saint-Sulpice et à Rabastens, respectivement à 15h et à 20h30.
Emmanuel Pella.
Regard biblique sur le don, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On aurait pu l'appeler aussi cette émission Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Nous sommes avec vous, Marie-Philomène Diouf, vous êtes religieuse de l'Immaculée Conception à Castres et professeure d'écriture sainte à l'Institut catholique de Toulouse. Vous nous avez donc invité à cette interrogation fondamentale à propos de cette conférence que vous allez donner sur le don et l'accueil du don. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Vous nous invitez à nous tourner, on va dire, vers l'étoile des Écritures pour essayer de voir quelle est la manière dont Dieu se révèle à travers son don. Alors après, vous vouliez nous parler un peu des codes secrets du don. C'est en tout cas le terme que vous utilisez. Il y en aurait deux si on devait les introduire avant de les développer. Deux codes secrets. L'un, tout simplement, c'est que Dieu pose une limite à ce don. Et le second, c'est que la première part dans le don ou dans la réponse de l'homme reviendrait à Dieu. Expliquez-nous ces deux secrets qu'il y a derrière le don.
Alors, quand je parle de code secret, je veux d'abord dire que lorsque Dieu fait un don, en même temps que ce don, il donne la possibilité de l'accueillir et d'en vivre. Je prends un exemple, quelques récits. Si je reviens au premier récit des origines, qui place vraiment l'homme au sommet de la création, ce récit se termine par des prescriptions alimentaires. Il va dire, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. Ça veut dire quoi? Fondamentalement, l'homme créé, l'être créé, Adam, est don. Mais par-dessus ce don, il lui donne quelque chose pour conserver le don, et c'est la nourriture. La nourriture permet de sauvegarder la vie. Donc, lorsque Dieu donne, en même temps, il indique comme un code secret, le moyen permettant d'accueillir et de vivre de ce don. Non?
Alors,
je parlerai aussi...
Oui? Allez-y, je vous en prie.
Je parlerai aussi de code secret, par exemple, pour indiquer la manière de vivre dans le jardin. Il donne le jardin, il donne toute nourriture, et quel est le code secret qu'il va donner pour qu'ils puissent vivre longtemps sur cette terre? Il va leur indiquer un arbre en leur disant, ne mangez pas de cet arbre-là, ça ne vous fera pas du bien. Ça veut dire quoi? Il donne un jardin et il donne un moyen d'habiter et de bien vivre dans ce jardin. Voilà. On peut continuer avec d'autres.
Alors,
formes.
On peut citer, oui, le passage, c'est donc dans le livre de la Genèse, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre de vie. Alors là, en l'occurrence, c'est la transgression justement de cet interdit, que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais formellement prescrit de ne pas manger. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Mais là, on fait peut-être un pas, on va dire, trop rapide. J'essaye toujours dans cette émission, donc j'entends que c'est une émission sur le regard biblique, mais on sent que votre intention est, on va dire, est mélangée, hein, ça se veut être aussi une conférence un peu grand public. Il y a parfois justement un regard sur Dieu qui est un peu surpris, même parfois quand on lit le récit de la Genèse, c'est qu'on entend tout ce que Dieu donne, la lumière... on va dire le ciel, les animaux, la création, hein, et particulièrement donc l'homme et la liberté qui va avec, mais qu'il y a des interdits. Alors on a du mal un peu à comprendre cette articulation entre don et interdit. On a l'impression qu'il y a là un paradoxe. Ce n'est pas le cas.
C'est pourquoi je parle de code secret. Il faut toujours garder, à mon avis, l'horizon du fait que l'interdit ne concerne pas un avantage pour Dieu. L'interdit, c'est pour que l'homme reste dans ce qui lui est donné. Dieu, de toute façon, n'a rien à perdre avec nous, n'a rien à gagner avec nous. Il est Dieu. Donc, quand il dit « faites ceci », c'est toujours « faites ceci pour vivre ». « Faites ceci pour rester dans le bonheur pour lequel vous êtes créés ». C'est tout.
Alors si on prend l'exemple, en l'occurrence, du livre de la Genèse, pardon, j'ai cité le mauvais passage, hein. Donc livre de la Genèse, chapitre 2, verset 16-17, « Le Seigneur donna à l'homme cet ordre, tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, du bonheur et du malheur, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. » Si on prend cet exemple précis, comment ça s'applique?
Alors, cet exemple précis rentre dans un contexte bien déterminé, non? Tout à l'heure, j'ai parlé du jardin qui est donné et j'ai parlé du code qui est donné pour qu'ils puissent vivre longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Mais ils n'ont pas respecté ce code. D'où la conséquence de ce qui va arriver. On nous dit que leurs yeux s'ouvrent. Ah, leurs yeux s'ouvrent, ils ne sont plus comme avant. Ils ne sont plus avec Dieu. C'est comme, du reste, le texte dit qu'ils sont nus. Ça veut dire qu'ils ne sont plus vêtus de cette présence aimante, vivante de Dieu. Ils ont voulu se soustraire de cette présence. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y avait la possibilité qu'ils vivent le reste de leur vie en train d'errer ou d'être cachés. Rappelez-vous que Adam parle de sa cachette. Mais lorsque le Seigneur lui demande d'aller cultiver la terre, d'en tirer la nourriture, etc., c'est que si on se remet dans ce contexte de la culture hébraïque, justement, c'est que lorsque le peuple travaille, avant même de manger le fruit de la récolte, ils vont présenter l'offrande. Et ça veut dire quoi? aller présenter l'offrande va amener Adam à sortir de sa cachette, à se présenter de nouveau devant Dieu. Et c'est là où il est béni, être devant Dieu, être en présence de Dieu, mais c'est vivre.
Alors, pardon, Sœur Marie-Philomène Diouf, mais ma question portait davantage, j'aurais dû être plus explicite, sur ce fameux arbre de la connaissance du bonheur et du malheur. Comment comprendre ce don que Dieu fait de poser l'homme, on va dire, en tout cas c'est la foi des chrétiens, hein, le premier homme au milieu de ce jardin qui était un jardin d'Éden, où il y avait une communion très profonde donc, avec Dieu, une communion donc, que tout homme a perdue, et en même temps de mettre un interdit qui est l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur, cette articulation entre don et on va dire limite ou interdit, comment bien la comprendre?
Tout à l'heure, vous avez précisé que le thème de cette conférence publique, c'est du don à l'accueil du don. En fait, cet arbre, c'est quoi? C'est presque si on disait que c'est notre part. C'est ce que je fais de l'arbre. C'est l'utilité, c'est l'utilisation que nous faisons de ce qui nous est donné. Non? L'arbre est donné. Par exemple, rien n'empêche Adam et Ève, etc., de profiter de l'ombre de l'arbre. Il y a juste que dans l'utilisation que nous faisons des choses, bien, nous devons les utiliser de manière à ce que ce soit bénéfique pour nous. Et je crois que c'est un surcroît de don, un par-dessus le don, lorsque le Seigneur leur indique que voilà, si vous faites cet usage de l'arbre, ça peut vous porter préjudice. Et on se rappelle aussi, je pense très important quand on lit les textes bibliques, que c'est un récit symbolique, c'est une métaphore. Les personnes sont en train de s'interroger sur la réalité du mal. La première chose que nous dit le texte, c'est que ce mal, cette souffrance qui nous vient, n'a pas était une réalité voulue par Dieu. Il ne l'a pas créée. Ça vient d'où? Peut-être de l'usage que nous faisons de ce qui nous est donné. Et ça, notre expérience quotidienne nous ramène souvent à ça. Alors, qu'est-ce que je sais de ce qui m'est donné?
On va dire que c'est donc là le premier code secret. Dans tout don, il y a, on va dire, presque l'intelligence du don, j'ai envie de dire. L'autre code secret que vous montrez du doigt ou que vous décryptez derrière donc ce don, c'est que donc une part revient toujours à Dieu. Alors vous prenez un exemple qui est l'exemple du repos, le septième jour du sabbat, du Shabbat, pardon. Pourquoi est-ce que les Juifs faisaient le Shabbat? Rappelez-nous cette primauté du don.
Alors, je parlais précédemment, en tout cas dans mon texte, du don de la manne, non? Et le sabbat, le don de la manne, ou que ce soit le repos du sabbat, viennent tout simplement dire que l'homme dépend entièrement de son Créateur. Ne pas travailler, par exemple, le jour du sabbat, c'est reconnaître qu'il y a une œuvre plus importante que la sienne, celle de Dieu. Non? Dieu s'est reposé le septième jour. Alors, la vie est un don. La vie n'est pas le fruit du travail de l'homme. C'est d'abord un don. Le sabbat vient comme rappeler la primauté du don sur les réalisations humaines. La primauté de la gratuité du don initial sur toutes nos initiatives. Non? Et on peut dire que ce don vient comme relativiser nos productions économiques quelque part.
Alors,
et d'un autre côté, oui.
Vous allez encore plus loin, c'est-à-dire vous dites, pardon pour les auditeurs, hein, c'est vrai que le fait de ne pas se voir, ça ne facilite pas les choses, mais on fait de notre mieux en ces temps si particuliers. Vous vous rappelez aussi que le Shabbat, en fait, abolit également toutes les inégalités sociales, et l'homme, y compris, devait prendre soin du bétail. C'était un temps, redites-nous en quoi, quelle était la particularité de ce temps, en plus de laisser la première place à Dieu?
Alors, quand je dis que le sabbat abolit toutes les inégalités sociales, en faisant référence au bétail, en faisant référence aussi aux esclaves qui travaillaient pour habituellement les Israélites, etc. Le repos du sabbat concernait tout le monde. Rappelez-vous ce qui se passe jusqu'au temps de Jésus, quand il traite d'hypocrites les pharisiens en disant « Mais si votre âne tombe dans le puits, est-ce que vous n'allez pas faire ce qu'il faut pour l'en tirer, etc. » Le repos vient comme rompre, non, avec cette classification ou cette stratification sociale pour dire qu'il y a un créateur et que tout le reste n'est que créé. Les différences disparaissent. Non? Et pour tous, le temps est une expérience de la condition de créature. Et puis accueillir ce temps, recevoir ce temps, ben c'est tout simplement être à sa place. La place de celui qui reçoit comme don.
Alors, ceci étant posé, donc on va dire le don comme on va dire réalité première de toute vie, si on sait ouvrir les yeux. Ce qui est dit, on va dire dans les Écritures, en tout cas en ces débuts, que ce soit le début donc de l'Ancien Testament ou le début du Nouveau Testament. Après l'explicitation de ces deux codes secrets, on va dire, qui sont comme un cadre à ce don. Et puis la réalité que la primauté revient toujours à Dieu dans ce don. Vous vouliez nous parler du pardon. Alors j'espère ne pas perdre les auditeurs en chemin, mais le pardon ça va de soi. Peut-être un peu moins comme ça quand on met un tiret au milieu. Et alors vous preniez un exemple que vous aviez commencé de citer tout à l'heure, qui est celui du travail. On a souvent en fait un regard sur le travail qui est un regard on va dire négatif, qui imagine que c'est le fruit d'une condamnation, que l'on travaille à la sueur de son front comme les femmes accouchent dans la douleur. Et vous nous invitez à regarder en fait cela autrement. Il y aurait en fait comme un surplus du don dans le travail. Alors expliquez-nous ce chemin du pardon avec l'exemple du travail.
Alors, je prends le terme pardon, non, le pardon, comme quelque chose qui est au-dessus du don. Et je prends l'exemple d'Adam, à qui tout est donné, mais qui, par son attitude, comme renie le don, le Seigneur ne le laisse pas en rade. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne la possibilité de vivre de nouveau de ce don. Et c'est ce que j'appelle pardon. Pardon, bon, on peut dire que c'est un terme un peu galvaudé, on l'utilise à tort et à travers, mais quand on s'arrête aussi sur cette parole, qu'est-ce que ça signifie le pardon? On commence à dire ce n'est pas oublié, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, mais le pardon, c'est cette part de Dieu en nous, non? Humainement parlant, mais pardonner c'est compliqué. Vivre, donner une autre possibilité, c'est ça la réalité du pardon. Et c'est ça que je ramène ici au-dessus du don. Ça veut dire qu'il y a la chute, mais le Seigneur revient pour offrir une nouvelle possibilité d'accueil du don. Alors, travail de la terre.
Prenez l'exemple du travail. Quel est, on va dire, le surdon ou on va dire le don que Dieu continue à faire au-delà de, on va dire, de cette chute quelque part.
Alors. Votre question nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à qu'est-ce que j'ai qui m'est donné. Aller travailler, mais ça suppose tellement de choses. D'abord pouvoir me lever, être en bonne santé, avoir bien mangé, mais c'est par-dessus le don. Le travail vient presque au bout de toute une réalité mise en place qui me permet d'être debout pour réaliser ce travail. Et ce travail que je réalise m'est donné aussi. Si on prend seulement l'exemple d'une semence, l'agriculteur peut aller semer, etc. Il aura tout fait. Mais qui fait germer? C'est le Seigneur. Et il ne sait comment. Il ne sait comment. Il se réveille et il commence à voir que les choses poussent. Tout est don.
Don et accueil du don, c'est pour rappel donc le thème de votre conférence que vous donnez donc à Saint-Sulpice et à Rabastens. C'est le 11 février prochain, Saint-Sulpice 15h, Rabastens 20h30. On va faire une deuxième pause et puis on va continuer cette promenade biblique même à distance.
Présence, place du Capitole, 97.9.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Regard public sur le don, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On fait un parcours biblique à distance avec vous, Marie-Philomène Diouf. Vous êtes donc depuis votre communauté religieuse donc à Castres. Vous êtes religieuse de l'Immaculée Conception et professeure d'écriture sainte à l'Institut catholique de Toulouse. Et on parle de cette conférence « Don et accueil du don » que vous allez donner le 11 février prochain à Saint-Sulpice et à Rabastens. Alors après avoir décrit, on va dire, ce mouvement profond du don et puis son intelligence parfois cachée, vous voulez insister sur le fait que l'homme a sa part à faire quelque part dans ce don, qu'il s'agit là d'une alliance qu'il a à se faire réceptacle. Est-ce bien cela?
C'est ça. J'ai conclu tout à l'heure en disant que bon, peut-être ce que nous considérons comme punition lorsque le Seigneur demande à Adam de travailler la terre, ce n'est rien d'autre dans la Bible qu'une opportunité qui est donnée à Adam de se présenter de nouveau devant le Seigneur. Et se présenter devant le Seigneur, c'est être béni. Offrir les prémices pour Adam, mais c'est comme sortir de cette cachette d'où il dialoguait avec Dieu. Travailler la terre devient comme un don par-dessus le don, non? Une nouvelle possibilité de vivre en présence de Dieu. Alors, ce qui se passe dans le texte biblique, c'est que cette tradition d'offrande va rythmer la vie du peuple de Dieu, non? Les récits du don sont toujours centrés sur l'énoncé du don de Dieu. Si on prend par exemple la fête des azimes, les Hébreux vont manger des pains sans levain, en signe de renouveau, non? Ils commémorent l'histoire du salut. Et ainsi de suite, avec toutes les formes de commémoration, comme la fête des semaines, où est commémoré le don de la loi au Sinaï. C'est l'anniversaire de l'Alliance, non? Jusqu'à ce moment où l'offrande du pain et du vin, dans chacune de nos Eucharisties, entre dans cette tradition d'offrande, non? Et même le simple fait de nos bénédicités à table, qui précède les repas, non? C'est une manière de nous insérer dans cette tradition de l'offrande du don. Donc, on reçoit et à notre tour, on donne.
Alors, est-ce là aussi le sens parfois qu'on peut avoir du mal à comprendre du sacrifice ou des sacrifices qui étaient oui. quelque part dus à Dieu dans l'Ancien Testament, tous ces animaux qu'on sacrifiait à Jérusalem. Il y a même oui. dans les Écritures donc, un sacrifice hein, qui concerne la naissance de Jésus quand il monte au temple pour son baptême, pour sa consécration à Dieu, l'offrande donc de deux tourterelles, si je ne me trompe pas. Quel était le sens comme ça de ces sacrifices? C'était dans la même dynamique?
Alors, je remonte un peu dans les rites. sacrificiel de l'Ancien Testament, souvent dans ces rites, il y avait un moment où on aspergeait, il y avait l'aspersion du sang, non, sur le peuple. On est exactement dans une symbolique d'échange à partir de cette aspersion du sang. Ça signifie, c'était juste une reconnaissance liturgique du don de Dieu, non? Comme une réponse liturgique au don que Dieu fait à son peuple. Qu'on se rappelle aussi que dans le monde juif, le sang est principe de vie, non? Le sang, c'est la vie. Donc, l'aspersion du sang a valeur de reconnaissance symbolique du don de Dieu. En offrant un sacrifice, Israël confesse que Dieu est source de toute vie. Et les membres de la communauté lui font l'offrande symbolique de leur propre vie aussi. Donc, le but des sacrifices est vraiment d'exprimer, de célébrer la relation privilégiée qui unit Dieu à Israël. Et c'est ce qui va se passer au temple que vous évoquez tout à l'heure. Lorsque Marie et Joseph viennent avec l'enfant Jésus, c'est une présentation, c'est un don. On redonne à Dieu ce que lui-même il nous a donné. On le lui confie. On lui signifie que c'est d'abord lui. Et nous, nous sommes juste comme, voilà, des personnes à qui le Seigneur fait confiance, des personnes à qui est confié le don.
Alors, Sœur Marie-Philomène Diouf, au début de l'émission, donc on laissait entendre qu'il faut savoir ouvrir les yeux pour reconnaître que tout est don. Hein. On citait donc l'épître aux Corinthiens. As-tu quelque chose sans l'avoir reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Il y aurait autre chose, une autre réalité qu'il faudrait apprendre à voir, c'est qu'on a aussi notre part à faire. Donc on a à être de vrais réceptacles du don, dites-vous, et à entrer dans cette alliance. Et alors vous vouliez prendre un exemple, c'était celui de l'Eucharistie. Donc l'Eucharistie, c'est pas toujours comme ça qu'on le voit quand on participe donc à la messe, en tout cas chez les catholiques, on a l'impression que c'est un don qui nous est fait et on ne conscientise pas toujours justement cette réponse que cela appelle de notre part.
En fait, l'Eucharistie, voilà, on garde en mémoire ou la résonance de la parole de Jésus, ma vie, nul ne la prend. C'est moi qui la donne, c'est en Saint-Jean. Et on sait que dans cette symbolique, le Seigneur va prendre le pain et donner. Il prend aussi la coupe et il donne. Et fidèle à cette tradition du don, on voit le prêtre qui actualise l'offrande du Christ chaque fois qu'il redit « Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce pain, toi qui nous donnes ce vin. » En fait, dans cette offrande, se produit l'unique face-à-face où tandis que nous nous offrons, nous, à Jésus, il se donne à nous. Pourquoi? Parce que le pain et la coupe consacrée sont simplement une présence offerte. Une présence offerte. Mais cette présence attend pour s'actualiser et s'accomplir pleinement dans l'accueil de l'Assemblée. Donc on peut dire que ce qui est primordial dans l'Eucharistie, ce n'est pas simplement la présence du Christ sous les deux espèces du pain et du vin. Le Christ n'est pas là pour être simplement présent. Il est là pour se donner à nous en nourriture, non? Afin que l'union entre lui et nous soit la plus vraie, la plus fondamentale, la plus profonde, non? La plus totale possible. Non? L'Eucharistie n'est pas d'abord une présence, elle est union. Et l'union implique la présence, notre présence de croyants.
Pour finir, Sœur Marie-Philomène Diouf, à propos de ce développement donc biblique sur le don, j'aimerais que l'on revienne donc sur la rupture. Avec l'homme, semble-t-il, dans tout don, il y a un moment une mauvaise manière d'en faire usage. En tout cas, si on lit les Écritures et peut-être si on regarde nos vies, c'est ce qu'on peut constater. Vous avez parlé donc du pardon, PAR-don, donc qui est une manière comme ça de nous aider à rentrer dans ce mouvement. Mais plus encore, vous nous aidez à prendre conscience que quelque part dans toutes ces ruptures, ou voire même dans toutes les petites morts de nos vies, voire même dans la mort, ça serait d'abord le lieu d'expérience par excellence de Dieu. Qu'est-ce que vous entendez par là?
on sait que le don de Jésus passe par la mort. Quand il, de manière symbolique, il prend le pain et le vin, qu'est-ce qu'on voit à l'horizon? Sa mort. Alors, depuis qu'il est mort pour nous, la mort est devenue comme un véritable don, comme une valeur suprême. Pourquoi? Parce que c'est la mort qui rend accessible ce que nous portons comme en latence en nous, ce désir d'immortalité, ce désir de vie éternelle. En fait, la mort est un passage qui nous mène à la vie. Donc, on peut tout simplement dire que depuis la mort de Jésus, tout ce qui est germe de mort, ça veut dire les conséquences du péché, la douleur, la maladie, les épreuves, etc., tout ce qui est germe de mort est devenu comme puissance de vie, comme opportunité de croissance, de plus de vie. Et je pense qu'il est bon de se le rappeler, non? Tout ce qui acquiert de la beauté passe par un chemin de transformation, une sorte de mort, non? De ce qui lui est antérieur. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de la semence. Mais voir une belle plante, mais on sait que en amont, il y a eu une mort, il y a eu une transformation. Donc la mort de Jésus a transformé notre propre mort en victoire. Et ça, je crois que c'est bon de se le rappeler.
Vous laissez entendre que c'est aussi le lieu d'expérience par excellence de Dieu ou de son vrai visage, qui est la miséricorde. Alors c'est un thème évidemment qui est cher à toute l'Église, mais sur lequel le pape François insiste beaucoup, hein, Dieu et miséricorde. On a eu un jubilé de la miséricorde, est-ce qu'on peut finir par cela?
Bien sûr, parce que je pense que considérer que le don est premier dans notre dynamisme de foi, de croyant, nous savons que la foi aussi est un don, c'est quelque chose qui nous est donné. Or, la seule attitude qui convienne devant ce don, c'est l'action de grâce. Rendre grâce à celui duquel nous tenons tout. Et une vie qui s'accueille comme don, on peut dire, est une vie qui s'harmonise instant après instant avec l'aujourd'hui de Dieu. Et c'est là où se trouve la réalisation du croyant.
Et quid,
la réponse, oui.
Quid de la miséricorde, puisque ma question portait là-dessus? Cette manière dont Dieu se penche sur notre misère, si j'ai bien compris?
Exactement. Parce que prendre conscience de la dimension du don, je disais que c'est permettre à Dieu d'exercer le plus beau nom qui le caractérise, c'est sa miséricorde. Parce que, humainement parlant, on se voit, on tombe, on se relève, etc. Or, on a un Dieu qui est là pour exercer sa miséricorde, si nous nous ouvrons à ce don. D'où la conclusion que j'ai donnée un peu à cette intervention. Lorsque nous parlons du mouvement biblique du don à l'accueil du don, mais ça se traverse dans le silence. Le mouvement de la miséricorde se fait dans le silence. C'est comme ce surgissement de rien, du rien dont nous parlions au début. De ce rien, le Seigneur continue à nous recréer, entre guillemets, à nous faire être. Et cela se passe dans la plus grande intériorité, dans la plus grande intimité de notre personne. Et c'est là où il y a cette unicité, cette harmonie qui nous recrée à son image et nous fait advenir à sa ressemblance.
Eh bien, merci, sœur Marie-Philomène Diouf, de ce développement. Je rappelle le titre de cette conférence, du don à l'accueil du don. Ça sera donc le 11 février. Enfin, on pourra vous retrouver le 11 février à Saint-Sulpice et à Rabastens. Saint-Sulpice, ça sera à 15h et Rabastens, à 20h30. Et c'est promis, la prochaine fois, vous pourrez venir dans les studios de Radio Présence quand toutes ces histoires de pandémie seront passées. Ça sera quand même plus simple de vous avoir en chair et en os en face de nous. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.